France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Écoutez le cinéma, point d'exclamation. C'est sous cette injonction à l'impératif qu'est née chez Universal une collection de disques consacrés aux bandes originales de musique de films. C'était il y a 20 ans. Deux décennies plus tard, cette mémoire musicale du grand écran, ces exhumations, ces restaurations et autres restaurations de partitions oubliées, tout cela se poursuit et son maître d'œuvre, son âme, son archéologue de la musique de film porte beau 20 ans après, c'est Stéphane Le Rouge. Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Baptiste.
À l'occasion de cet anniversaire, paraît pas mal de choses. D'abord un livre disque d'un genre tout à fait particulier, on va en parler, accompagné de trois vinyles de trois couleurs différentes avec un certain nombre d'inédits. Mais remontons 20 ans en arrière, en 2000, en France. Comment la musique de film, comment ce patrimoine-là était-il alors perçu ?
Mais il était surtout, introuvable, quoi. C'était vraiment un continent englouti. Il y avait une mémoire à réinventer, je pense vraiment, parce que beaucoup de films continuaient à être exploités, à vivre, à revivre. On était au début du support du DVD, du câble. Donc, les films créaient une demande sur leur musique, mais cette demande ne pouvait plus être satisfaite parce que, il n'y avait rien eu souvent, le plus souvent, depuis les vinyles d'époque sortis dans les années, 60, 70.
Petits tirages en général.
Des petits tirages, comment dire.
Oui, pour collectionneurs, cinéphiles.
Oui, à 500, 1000 exemplaires. Quoi. Donc vous imaginez, la télévision continuait à faire vivre ses films, et puis en même temps, en vis-à-vis de ça, il n'y avait plus rien. Quoi. Donc si vous vouliez trouver, mettons, je dis n'importe quoi, mais la musique de Stéphane Grappelli pour Les Valseuses, c'était vraiment mission impossible. Quoi. Le 33 tours original des Valseuses était devenu une sorte de graal du micro-sillon.
Mais est-ce qu'il y avait un public pour ça? Universal se lance donc, et vous demandez de lancer cette collection. Universal n'est pas philanthrope, il se disait qu'il y avait des gens derrière qui allaient pouvoir acheter ces disques de cette nouvelle collection.
Il y avait à l'époque, la collection s'est créée dans un département qui s'appelait Universal Jazz, et il y avait quelqu'un que je salue d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Richard, et qui est un ancien disquaire, et qui savait très très bien, il avait lui-même vendu les albums originaux de ces bandes originales, si j'ose dire, et Daniel savait, il se disait, mais peu importe, peut-être on en vendra 1000, on en vendra peut-être 2000, mais il faut faire exister, il faut qu'on réédite, mettons, la musique de Martial Solal pour À bout de souffle, par exemple. On est dans une major.
C'était introuvable.
C'était introuvable. Il y avait un 45 tours en 1960 à la sortie du film, et puis rien d'autre.
Il y a 20 ans.
Voilà. Et c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne trouvait pas la musique d'À bout de souffle. Et le 45 tours limitait la partition de Solal à 4 titres. Vous imaginez, donc une partition pour un film mais iconique, qui était une révolution dans la syntaxe, dans la grammaire du cinéma. Et la musique de Solal, il y avait, pour les chanceux, il y avait un 45 tours qui réduisait la partition à 10 minutes.
Et pourquoi vous veniez d'où?
Mais moi, je rêvais, j'adorais toute cette constellation de compositeurs que nous allions rééditer. Ça me fascinait. J'étais moi-même un ancien collectionneur. J'avais moi-même souffert du fait de voir ces films sans pouvoir prolonger le plaisir du film par la musique. Parce que c'est aussi ça. Moi, ça m'a toujours défenestré de voir une interview de Spielberg racontant qu'enfant, le choc qu'il a eu devant Lawrence d'Arabie de David Lean à Cincinnati, adolescent, et qu'à l'époque, Internet n'existait pas, la vidéo n'existait pas, et que la seule façon finalement de se réimmerger dans le film, c'était d'en écouter la bande originale. Et Spielberg disait que il écoutait le 33 tours de la musique de Maurice Jarre, et qu'il fermait les yeux, et que mentalement, il essayait de reconstituer le découpage de David Lean.
Jusqu'à 9h, on va se plonger dans certaines histoires de ces 20 ans. Il y en a beaucoup. Il y a eu 150 disques environ d'archéologie musicale entre rencontres, pas mal de hasards. On va pas forcément évoquer d'ailleurs les plus grands succès, les Le Grand Demi, Morricone, Delerue. On a déjà souvent parlé ici sur France Musique. On va piocher dans ce livre disque et ses vinyles. Mais d'abord, écoutons non pas le cinéma, mais un cinéaste en est justement en 2000. C'est la voix de Claude Sauté à qui vous demandez de quoi il parle avec le compositeur de ses films, Philippe Sardin.
On parle plus de cinéma que de musique. Non, je suis content, au moment où il fait la musique, de pouvoir parler musique avec lui, C'est ça. Autrement, je ne pense qu'au cinéma. Et Philippe a la merveilleuse capacité d'attention qu'il a pour un projet, pour quelque chose qui lui plaît. Il se donne beaucoup de mal d'être attentif, de comprendre, de chercher à être utile, d'aider. Tout simplement. et c'est très rare, hein, dans le métier, les types qui veulent vous aider sans contrepartie, si on peut dire.
Extrait du cinéma de Claude Sauté, musique de Philippe Sard. C'est le premier acte d'écouter le cinéma que vous avez rencontré, Claude Sauté, quelques semaines seulement avant sa disparition en 2001.
Ouais, en 2000 même, en 2000. C'était très émouvant. Enfin, je ça me fait quelque chose de réentendre ça, c'est ce timbre un peu rocailleux de quelqu'un qui est malade, de quelqu'un qui a plus ou moins conscience quand même qu'il est vraiment sur la dernière ligne droite. Il y a vraiment le syndrome du sablier. Et j'ai eu cette chance, n'étant pas un ami de Sauté, mais juste une relation, qui m'invite chez lui, au 15 avenue des Gobelins, pour faire ce qui devait être le premier entretien d'une série d'interviews pour ce disque. Il mettait toute son énergie dans la confection de cet album. Et on a fait cet entretien qui a duré 40 minutes. Il était en traitement. Au bout de 40 minutes, il m'a dit non, mais j'arrête, je suis trop fatigué. Et on ne s'est jamais revu. Et cet entretien dont vous venez de diffuser un extrait devait être au départ en rédactionnel dans le livret du CD. Sauté est mort et on a la décision finalement d'en faire un petit montage audio et de mettre la musique de sa voix à côté de la musique de son compositeur d'élection, Philippe Sard. Et c'est uniquement aujourd'hui, dans ce livre disque anniversaire, donc 20 ans plus tard, que cet entretien avec Sauté est publié en rédactionnel, quoi, dans sa version écrite et intégrale.
Parce que c'est ça, ce livre disque qui paraît pour les 20 ans d'écouter le cinéma. C'est des cinéastes qui parlent de musique, c'est des compositeurs qui parlent de cinéma, avec parfois des correspondances, des hasards surprenants.
Oui, bien sûr. Ah oui, ça me touche beaucoup d'avoir, par exemple, Costa Gavras qui parle de son premier compositeur, qui est Michel Magne, en sachant qu'à côté de lui, il y a Henri Verneuil et René Clément qui parlent de films sur lesquels Costa lui-même a été assistant, notamment Les Félins de René Clément. Et quelques pages plus tard, il y a des compositeurs avec lesquels Costa va travailler plus tard, comme Gabriel Yared, par exemple, sur Anaka, ou Alexandre Desplat sur Adults in the Room. Donc, il y a plein de tissages, et puis des vis-à-vis incongrus, quoi. Agnès Varda, mettons, et Quincy Jones, Jean-Jacques Hano et Antoine Duhamel. Enfin, c'est plein de vis-à-vis assez étonnants, assez iconoclastes.
Et vous le disiez, Lalo Schifrin et René Clément. Lalo Schifrin, sa première musique de film, c'est pour René Clément.
Oui, c'est pour René Clément. Et ça, vous parliez de hasard tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est une rencontre avec Schifrin au Festival de Cannes en 2004. Et je lui dis, mais pourquoi ton premier film, Les Félins, René Clément, 64, cette musique n'est jamais sortie en disque. Et il me dit, avec son accent argentin, oui, mais j'ai toujours chez moi la bande du film, mais j'ai jamais sorti. Il n'y a pas de public pour ça. Je dis, il n'y a pas de public. Bien sûr qu'il y a un public. Les gens seraient ravis de savoir quel a été l'acte de naissance du compositeur de la musique de Mission Impossible et de Bullitt. Mais voilà. Et on a sorti cette musique.
De la musique de la bande originale des Félins, musique de Lalo Schifrin pour le film de René Clément, qu'on trouve donc sur le livre disque qui paraît pour les 20 ans d'écouter le cinéma, la collection chez Universal, créée, fondée et dont s'occupe ardemment et tous les jours Stéphane Le Rouge. D'ailleurs, dans ce livre disque, Lalo Schifrin raconte la leçon de René Clément, enfin ce que René Clément lui a appris. Ouais. C'est donc son premier long métrage.
Son premier long métrage, et c'est la première fois où Lalo, comme également Michel Legrand, qui est de la même génération que lui, ou plus tard d'autres compositeurs, hein, c'est aussi un peu ce que racontent Gabriel Yared ou Jean-Claude Petit, ce sont des compositeurs qui, à travers le cinéma, pour le cinéma, à travers la collaboration avec un cinéaste, ont réussi à faire une synthèse de toutes les cultures qu'ils portaient en eux. Et Chiffrine, forcément, il est né en 32, il a eu après-guerre, il y a le séisme de la découverte du jazz moderne, et puis en même temps, c'est quelqu'un qui a un goût pour la musique classique. C'est quelqu'un qui est un élève de Messiaen au conservatoire de Paris. Donc il revient en France, il revient à Paris 10 ans après la fin de ses études au conservatoire. Il rencontre Clément, donc il a vu les films lorsqu'il était étudiant au conservatoire. Et voilà, il y a quelque chose d'une fusion, là je pense, une fusion de langage. Et Chiffrine a toujours cette formule magique, il dit « si on doit comparer ma carrière à une maison, les félins en sont les fondations ».
Il explique notamment comment, avec René Clément, il apprend le moment précis où la musique doit commencer et le moment où elle doit finir. Et c'est pas forcément le moment le plus évident. Alors ici, avec la
musique... Je vous coupe, Jean-Baptiste, mais là, justement, par rapport à ça, on a entendu tout à l'heure une espèce de descente aux ondes Martenot. À l'image, dans le film, on voit une femme qui pousse un cri. Et ce sont les ondes qui se substituent à sa voix. Ça, c'était une entrée de musique absolument mais magistrale.
Cette bande, elle était chez Lalo Chiffrine. Vous venez nous le raconter, là, c'était... relativement simple, et parfois ça l'est beaucoup moins, ça s'apparente à une chasse au trésor, à une archéologie, et parfois à des découvertes vous passez beaucoup de temps dans des greniers et dans des caves.
C'est un aspect du travail, moi, qui me réjouit, c'est-à-dire le côté jeu de piste, quoi, c'est-à-dire traquer des choses, essayer de les retrouver. Alors parfois on court après des choses qui ont disparu à jamais, mais on pourrait faire 3 heures là-dessus. C'est-à-dire le jour où j'ai découvert dans les archives de Maurice Jarre toutes les séances de travail qu'il avait enregistré sur des petites cassettes avec tous ses metteurs en scène. Maurice était parti, malheureusement, il s'était envolé. Et vous prenez ces cassettes qui étaient dans une boîte à chaussures en haut d'une étagère, vous les remettez dans un lecteur, vous appuyez sur play, et là vous entendez, c'est le passé au présent, la voix de Maurice Jarre qui parle avec John Huston pendant les séances de spotting. Ils sont à la table de montage, ils décident des endroits où la musique va commencer, où elle va s'arrêter, et vous avez les deux qui parlent ensemble sur l'homme qui voulut être roi. C'est absolument, vous avez le frisson, quoi. C'est-à-dire, vous avez l'impression d'être un témoin invisible d'une rencontre qui a eu lieu 40 ans plus tôt.
Et parfois, la musique a vraiment disparu. Il faut la réenregistrer. Vous l'avez fait, ça aussi,
oui,
depuis 20 ans.
Sur Michel Magne, tout avait disparu. Ses partitions sont parties en fumée dans l'incendie du château d'Hérouville en 69. Et on a eu un exemple extrême sur Georges Van Paris, qui était un peu le Michel Legrand des années 50, en schématisant. Et là aussi, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bande, mais on avait les partitions, voire même parfois le matériel d'orchestre. Et avec Laurent Petit-Girard, sublime chef d'orchestre, très bon pianiste aussi. On est parti en Hongrie et on a réenregistré à l'identique, au plus près des versions originales, ces chefs-d'œuvre que sont les partitions de Casque d'or, Madame 2 ou French Cancan.
Madame 2 de Max Ophüls. Thank you. L'Orchestre symphonique de Hongrie, dirigé par Laurent Petit-Girard, qui réenregistre donc cette musique, cette bande originale de Madame II de Max Ophüls. C'est Georges Van Paris, musicien un peu disparu, qui a fait beaucoup d'opérettes d'ailleurs.
Oui, et on réduit tout le temps Van Paris aux chansons qu'il a écrites, évidemment à ses tubes, comme La Complainte des Infidèles, ou mettons la Complainte de la Butte, évidemment, pour French Cancan d'Orvin, mais on oublie la dimension, le symphoniste, voilà. Et c'est à ce versant-là qu'on a tenu à rendre hommage dans cet album, qui s'appelle Georges Van Paris et le cinéma.
Stéphane Lerouge, est-ce qu'il y a des musiques disparues à jamais, ou des trésors qui dorment encore, peut-être que quelqu'un qui nous écoute et qui a un trésor chez lui, dans sa cave, sans le savoir?
Ah, et moi, il y a des tas de musiques qui me font fantasmer. Je sais pas, je pourrais vous citer, mettons, la partition de Paul Mizrahi pour Monsieur Arkadine de d'Orson Welles, qui est sa seule collaboration avec Welles, qui est une partition, mais quand vous voyez le film, mais vous tombez de votre chaise. Et cette musique n'est jamais sortie en disque, et les bandes ont disparu, et surtout, Paul Mizrahi avait donné les partitions au producteur du film, qui a fait faillite. Donc, voilà, il faudrait en fait la relever pour la faire réenregistrer à l'identique.
Qu'est-ce qui est plus simple, c'est de travailler avec le compositeur ou le cinéaste, ou pas, parce que parfois ils ont des exigences. Vous nous parliez de Claude Sauté, vous lui avez désobéi d'ailleurs, vous avez mis la chanson d'Hélène qu'il ne souhaitait pas mettre dans le cinéma de Claude Sauté.
Oui, enfin, on peut le dire aujourd'hui, Claude Sauté n'est plus là, Jean-Loup Dabadie nous a malheureusement quittés, mais c'est vrai que Claude Sauté, par exemple, il m'a répété 3 fois, en passant d'ailleurs du tutoiement au vouvoiement, mais sur un ton vraiment mais comminatoire, il m'a dit « je ne veux pas de la chanson d'Hélène dans mon disque ». C'est-à-dire qu'il ne supportait pas le principe, l'idée...
De César et Rosalie.
Et surtout dans les choses de la vie.
Les choses de la vie, oui.
Et il supportait pas l'idée que son compositeur Philippe Sard et son scénariste, et qui étaient 2 hommes de chansons. C'est-à-dire que Dabadie écrivait pour Reggiani des paroles, et Sard avait écrit des chansons pour Régine. Il disait, ce sont 2 hommes de chansons, et dans mon dos, ils ont fait une chanson dont je ne veux pas. Et donc la chanson n'est pas dans le film, et Sauté m'a dit, vous ne la mettez pas sur mon disque. Claude Sauté est parti et on s'est dit, mais on ne peut pas ne pas ouvrir ce disque avec cette chanson qui est presque l'emblème du cinéma de Claude Sauté.
Mais est-ce que c'est pas plus simple quand on est libre de tout regard du cinéaste ou du compositeur? Ça dépend.
C'est très difficile.
En même temps, ils ouvrent leurs portes.
Ils ouvrent leurs portes, on est obligé de travailler avec eux et en même temps, c'est vrai, on peut pas en faire une règle, mais c'est vrai que souvent les créateurs ne sont pas forcément les meilleurs juges de leur propre œuvre. Voilà, donc il peut y avoir des situations de conflit, de divergence, de désaccord. Et en même temps, je garderai toujours au cœur la frustration, par exemple, d'avoir commencé un coffret avec Maurice Jarre, un coffret anthologique avec Maurice, et Maurice Jarre est parti. Et j'ai fini le coffret en 2010 sans lui. J'aurais préféré avoir comme ça des échanges, avec des désaccords avec lui, mais qu'il soit là quand le coffret est sorti, plutôt qu'il soit mort à l'époque.
Stéphane Lerouge, pour les 20 ans d'écouter le cinéma, il y a ce livre-disque qui paraît, il y a aussi 3 vinyles avec des raretés, des inédits, et notamment, alors lui est bien vivant, une musique d'Alexandre Desplat. Premier ou l'un des premiers films d'Alexandre Desplat, ouais. Francis Giraud à la réalisation, Passage à l'acte, et on reconnaît vraiment déjà ici le style très rythmique et l'instrumentation d'Alexandre Desplat. C'est sur l'un des vinyles, avec ouais. des raretés, des inédits. C'est en projet, un coffret, le cinéma d'Alexandre Desplat.
Oui, oui, pourquoi, moi je serais ravi. S'il donnait son accord, je serais le premier partant. Mais j'ai voulu mettre ce titre en particulier parce que quand on pense au parcours, disons, à ce premier acte du parcours d'Alexandre Desplat, c'est-à-dire que d'avant le cinéma anglo-saxon, d'avant le grand envol qu'il a eu au moment de The Queen et de la jeune fille à la perle, il y a le cinéma français et on pense toujours à Jacques Audiard et on oublie qu'il a travaillé avec Marion Vernoux, qu'il a travaillé pour Patrice Lecomte, qu'il a travaillé dans le cinéma d'animation avec Le Château des Singes, qu'il y a Robert Guédiguian et qu'il y a cette collaboration avec Francis Giraud. Et Giraud qui lui-même avait travaillé avec Morricone, Janssen, Georges Delru. Et c'est vrai qu'Alexandre se retrouvait face à un cinéaste qui avait un parcours musical, une identité musicale. Et je pense qu'il a essayé d'être à l'altitude d'inspiration du Morricone un peu étrange, un peu ironique, un peu grinçant. Et notamment, là, on entend la mandoline qui est complètement sortie de son emploi folklorique pour aller vers quelque chose de plus dérangeant et obsessionnel.
Delru, Jarre, Legrand, Desplat, Lay. Pourquoi, selon vous, Stéphane Leroux, vous êtes quand même bien placé pour observer, pourquoi il y a tant de Français dans la musique de film, y compris celle qui a été à Hollywood et qui a été oscarisée?
Il y en a aussi beaucoup en Italie, beaucoup en Angleterre, mais c'est vrai
qu'il n'y a pas de spécificité, selon vous.
Je pense, il y a une école française qui naît très tôt, qui naît avec Maurice Jobert au début du cinéma parlant, et que c'est difficile de dire, on craint toujours les généralités, mais je pense qu'il y a comme une école française qui est liée peut-être à un rapport un peu plus en contrepoint avec l'image, une sorte de détachement par rapport à, disons, en schématisant, à une école hollywoodienne où on a toujours tendance un peu à stabilo-bosser, comment dire, l'image, un peu à la pléonasmer peut-être, à souvent répéter des informations qui sont déjà à l'image, et surtout, ça c'était vrai dans les années 50, les partitions hollywoodiennes étaient toujours dans une sorte de délayage, de marée noire, un peu néo-romantique, un peu boursouflé parfois, qui n'a rien à voir, mettons, avec justement à l'époque la délicatesse et des partitions sur des formations souvent plus réduites, justement de Jobert dans les années 40 ou plus tard de Van Paris ou de Jean Wiener.
Stéphane Leroux, en 20 ans dans la collection Écouter le cinéma, vous avez commencé avec des musiciens français, avec des compositeurs français, puis vous êtes élargi, il y a Morricone, on a parlé de Lalo Schifrin, John Barry également,
John Barry,
qui figure
Quincy
sur
Jones.
L'un des vinyles.
Oui, John Barry, c'était une belle rencontre, un peu crépusculaire, parce que j'ai eu la chance d'aller le rencontrer dans sa retraite dans le Long Island, près de New York. Il vivait vraiment détaché du cinéma, le cinéma contemporain, je vous parle de ça, on était en 2007-2008, le cinéma contemporain ne l'intéressait plus beaucoup et il y avait vraiment, il vivait dans cette grande maison, je vois là l'entretien que l'on fait ensemble, la lumière qui commence à tomber, il y avait quelque chose d'assez magique d'être devant ce compositeur anglais qui venait lui du jazz et de la pop musique et qui, à travers le cinéma l'avait grandi, puisque justement lui avait appris à mieux maîtriser l'écriture pour orchestre. Et il en était vraiment redevable au cinéma.
Qu'est-ce qu'on entend ici?
Là, c'est la musique justement de l'un de ses premiers films, avec une partition pour un film d'époque qui s'appelle Le Lion en hiver, Anthony Harvey. Et c'est vraiment là aussi une sorte d'un peu de Barry symphoniste qui naît au cinéma.
Extrait de la bande originale du film Le Lion en hiver de John Barry. Ça, c'est sur l'un des trois vinyles qui paraît pour les 20 ans d'Écouter le cinéma. Notre invité ce matin, c'est le directeur de cette collection chez Universal, Stéphane Le Rouge. Avec ce livre disque et cette parole, tout part de l'écrit pour une fois, tous ces entretiens que vous avez eus avec des compositeurs, avec des cinéastes. Pourquoi parler avec eux? Parce que vous voulez savoir toujours le pourquoi, le comment.
Moi, je trouve ça passionnant que la musique soit complétée par une sorte un peu de mode d'emploi écrit, qui est un créateur qui donne des clés, qui explique, et qui va un peu éclaircir, qui va donner des clés à l'auditeur sur la musique, sur l'écriture même, sur l'orchestration, sur l'instrumentation, sur le rapport, le quatre mains avec le cinéaste. Et voilà, et donc, tant que j'ai pu le faire, j'ai eu cette chance de rencontrer une génération de compositeurs qui, malheureusement, pour certains, ne sont plus là aujourd'hui. Et voilà, donc, et c'est vrai qu'on est arrivé à ses 20 ans, et je veux dire que cette idée de ce livre-disque ne vient pas de moi, c'est un camarade qui dirige le label Panthéon chez Universal, qui s'appelle Damien Declercq, et qui m'a dit, mais on a cette somme d'entretiens qui ont été réalisés pour des disques qui, parfois, aujourd'hui, sont à leur tour devenus introuvables, puisqu'il y a certaines références qui n'existent plus, qui ne sont plus disponibles, et si on tentait de les réunir dans un même objet. Et voilà, on a donc conçu cet album où on a tous ces entretiens qui sont réunis. Et chaque entretien est donc illustré par un ou deux morceaux qui figurent sur les CD.
Et parmi ces cinéastes que vous avez rencontrés qui parlent de leur rapport à la musique et de leur rapport à leur compositeur, il y a Bertrand Blier notamment qui est particulièrement passionnant. Et c'est l'un de ses premiers films, il le fait avec Georges Delerue.
Il travaille avec Georges Delerue. Il a une expérience qui l'excite énormément et qui le déçoit en partie, c'est sur les valseuses avec Grappelli, parce qu'il s'aperçoit que Grappelli est un génie de l'improvisation.
Il raconte les séances d'enregistrement.
Qui sont un peu, disons, un peu, qui vasouillent un peu. Et il se dit, Grappelli est un sublime soliste de jazz, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a le sens de la dramaturgie, qui c'est pas forcément un vrai compositeur pour l'image. Donc il dit, la prochaine fois, je prends un vrai compositeur qui a le métier, la discipline de l'écriture pour l'image, et je lui demande simplement d'utiliser un soliste de jazz, c'est-à-dire un soliste déjà encadré. Et il engage le sublime bassiste américain, afro-américain Slam Stewart, donc génie, magicien de la basse chantante, mais sur une musique de Georges Delerue. Et c'est une rencontre absolument ahurissante.
Et voilà ce que ça donne. Voilà, petit extrait à nouveau de cette musique de Georges Delerue pour le film Calmos de Blier, de Bertrand Blier, et la voix de Slam Stewart. C'est quand même un nom qui revient le plus, sans doute, dans ce livre disque, Stéphane Le Rouge, c'est celui de Godard.
Ouais, et parce que le livre disque s'ouvre quasiment, deuxième entretien, Martial Solal raconte à bout de souffle. Quelques pages plus loin, c'est Antoine Duhamel qui raconte Pierrot le Fou. Et il y a cet entretien magnifique où Gabriel Yared raconte Sauf qui peut la vie, qui est à la fois son vrai premier long métrage avec une musique originale, avec en plus le son des synthétiseurs qu'il utilisait à l'époque, programmé par Georges Rohdy. Et je le dis souvent, mais ça me touche énormément parce que c'est le premier vrai long métrage de Gabriel Yared et c'est le dernier long métrage de Jean-Luc Godard avec une musique originale. Et donc il y a quelque chose qui s'ouvre. D'un côté, c'est le parcours, la relation de Yared avec le cinéma, et quelque chose qui se referme, c'est le rapport de Godard avec la musique originale.
Quelques mesures de Gabriel Yared qu'on salue car il nous écoute tous les matins, Stéphane Le Rouge, Sauf qui peut la vie, la dernière bande originale pour un film de Godard. Et d'ailleurs, Gabriel Yared sera à l'honneur dans un petit peu moins de 15 jours maintenant,
29 janvier,
avec un concert ici à l'auditorium. Il sera en direct avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Ouais.
Merci beaucoup, bon anniversaire.
Bah écoutez, vous me souhaitez bon anniversaire comme si j'étais le fils caché de Manuel d'Oliveira et Antoine Pina. Écoutez, c'est encourageant. J'espère qu'on va se retrouver dans 20 ans pour les 40 ans d'Écouter le cinéma.
C'était Stéphane Lerouge, Écouter le cinéma, un livre disque chez Universal et 3 vinyles. Demain, notre invité sera Laurent Campellon, le chef du Grand Théâtre de Tours. La réponse à notre jeu, on écoutait de la musique panaméenne, figurez-vous, Historia de una mort, Carlos Eleta Almaran. Voici Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulimier. Bonjour à tous les deux,
bonjour.
Je suis en retard.
Bonjour Jean-Baptiste, on va écouter Chopin pour ouvrir cette émission avec Andrei Pizarev, pianiste russe.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.